La montée du nativisme et la grande perturbation politico-religieuse. Venons-en maintenant à la grande perturbation politico-idéologique engendrée par la découverte récente de la diversité religieuse en France et plus généralement en Europe occidentale, comme nous le verrons. Historiquement, la diversité religieuse a généralement été associée à un vote plus important pour les partis de gauche. Dans les années 1960 et 1970, on constate par exemple que les électeurs protestants et juifs ont une propension à voter pour les partis de gauche qui, avec environ 68% de votes favorables, est intermédiaire entre celle des catholiques non pratiquants, environ 51%, et celle des électeurs sans religion, environ 79%. Voir graphique 14.16. On retrouve ce même positionnement politique intermédiaire de ces deux minorités religieuses des années 1960 aux années 2010. En ce qui concerne les électeurs de confession musulmane, que les enquêtes permettent de suivre séparément à partir de 1988, on observe un positionnement à gauche beaucoup plus net. Lors des élections de 1988 et 1995, ces électeurs votent pour environ 70-80% d'entre eux pour les partis de gauche, soit approximativement le même niveau qu'au sein des électeurs sans religion, sans que l'on puisse ordonner les deux groupes de façon statistique significative, compte tenu des effectifs limités du premier. À partir des élections de 1997 et de façon systématique lors des élections de 2002, 2007, 2012 et 2017, on constate que les électeurs se déclarant de confession musulmane votent massivement pour les partis de gauche, autour de 80-90% des voix, enquête après enquête. Les échantillons sont certes de taille limitée, mais les effets sont extrêmement significatifs et ils se retrouvent élection après élection. L'écart entre le vote pour les partis de gauche entre les électeurs musulmans et non musulmans atteint environ 40-50 points tout au long de la période 1995-2017, avec un intervalle de confiance d'environ 5 points en fin de période. Cet écart massif ne s'explique que pour une faible part, à peine un dixième de l'effet total, par la prise en compte des autres caractéristiques de ces électeurs qui peuvent les conduire à voter davantage pour les partis de gauche, en particulier leurs plus faibles revenus et patrimoine. Ces résultats conduisent à plusieurs remarques. Tout d'abord, il n'existe aucun critère socio-économique qui génère un vote aussi clivé que ce vote à 80%-90% des électeurs musulmans pour les partis de gauche, à l'exception peut-être du vote à 80-90% des électeurs à très haut patrimoine pour les partis de droite dans les années 1970. Nous verrons toutefois que les électeurs noirs aux États-Unis votent également à 80-90% pour le Parti démocrate de façon systématique depuis les années 1960, et que les électeurs de confession musulmane au Royaume-Uni votent à 80-90% pour le Parti travailliste de façon systématique depuis les années 1980-1990. Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur les similitudes et les différences entre ces différentes formes de politisation des clivages ethno-religieux, ou perçus comme tels. À ce stade, notons simplement que l'explication principale pour ce vote à 80-90% des électeurs de confession musulmane pour les partis de gauche est relativement évidente. Ces électeurs perçoivent une immense hostilité à leur égard de la part des partis de droite. Cette hostilité à l'immigration extra-européenne s'exprime de façon ouverte depuis plusieurs décennies au sein du Front National, parti qui a regroupé environ 10-15% des voix aux élections législatives et 15-20% aux élections présidentielles depuis la fin des années 1980 jusqu'aux années 2010, et même jusqu'à 25-30% aux élections régionales et européennes de 2014-2015. Mais également au sein des franges les plus droitières des partis de centre-droit et de droite. Dans les années 1980, les premiers succès électoraux du FN s'appuient sur un slogan nativiste sans détour, inauguré dans un tract utilisé pour la première fois lors des élections législatives de 1978. « 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés de trop, la France et les Français d'abord, votez Front National ». Le tract ne le précise pas, mais il ne fait aucun doute pour personne que seuls les immigrés extra-européens sont visés et non l'immigration blanche européenne. Depuis la loi de 1889, la règle générale en France est qu'une personne née en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à l'âge de 18 ans, à la condition toutefois de respecter un certain nombre de conditions, notamment en termes de durée de résidence, de scolarisation et parfois de manifestation de la volonté de devenir français, qui ont fait l'objet de nombreux débats et réformes. L'autre pilier est le double droit du sol, mis en place en 1851. Toute personne née en France de parents nés en France est automatiquement française à la naissance. Au cours des dernières décennies, le cœur du programme du FN a toujours consisté à défendre la fin de l'immigration, la fermeture des frontières et la réforme du code de la nationalité, de façon que les enfants issus de l'immigration non européenne cessent d'obtenir la nationalité française. Par ailleurs, le FN laisse clairement entendre qu'il lui sera possible, une fois parvenu au pouvoir, de renvoyer chez eux ces immigrés indésirables et leurs descendants, quitte à décréter rétrospectivement des déchéances de nationalité pour les personnes dont le comportement n'aurait pas donné satisfaction, à charge pour les nouveaux gouvernants de fixer les critères. Il est important de souligner la violence inouïe de l'opération, qui consiste à redessiner rétrospectivement la frontière de la communauté et à en exclure des personnes qui ne connaissent d'autre vie qu'en son sein. Or, des politiques massives de déchéance de nationalité et de déportation ont déjà été menées dans le passé, non seulement en France et en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais également aux États-Unis pendant les années 1930. Il est donc historiquement démontré que des opinions chauffées à blanc en arrivent parfois à donner les clés de leur pays à des gouvernants prêts à se lancer dans des politiques de ce type, y compris dans des régimes électoraux démocratiques. Ajoutons que les risques d'escalade consécutifs à l'éventuelle arrivée au pouvoir de tels partis sont d'autant plus forts que les promesses faites au reste de la population quant aux bénéfices qu'elles retireraient de ces attaques anti-immigrés ne reposent sur aucune base factuelle solide. En particulier, l'idée selon laquelle l'immigration coûterait des fortunes à la France, affirmation qui n'a par ailleurs aucun sens à l'échelle de quelques générations compte tenu de l'importance de la population qui a pour partie des origines étrangères, ne repose sur rien. Les impôts acquittés par les immigrés récents équilibrent les dépenses reçues ou les dépassent même légèrement. Compte tenu de l'absence prévisible de résultats sur le plan social et économique, la surenchère sur le front identitaire serait la suite la plus logique d'une telle expérience politique, avec à la clé des violences civiles inimaginables. Face à de tels discours et de telles menaces, il n'est guère étonnant que les personnes les plus directement visées, c'est-à-dire les électeurs de confession musulmane, choisissent de voter pour les partis qui s'opposent le plus frontalement à l'extrême droite, à savoir les partis de gauche. On voit cependant à quel point l'arrivée de la diversité ethno-religieuse en France, à la suite de l'immigration post-coloniale des années 1960 et 1970, suivie de près par le développement d'une idéologie nativiste s'opposant violemment à cette diversité à partir des années 1980-1990, a totalement bouleversé la structure habituelle du conflit politique. Dans le schéma traditionnel, les catholiques les plus croyants votaient le plus à droite, suivis des catholiques non pratiquants et des personnes issues des religions minoritaires, protestantisme et judaïsme, suivis des personnes sans religion, qui, depuis le XVIIIe siècle et l'époque de la Révolution française, votaient le plus à gauche. Que les croyants de confession musulmane, pour certains très conservateurs sur le plan, par exemple, des normes familiales, votent désormais plus souvent pour les partis de gauche que les personnes sans religion, en dit long sur l'ampleur du bouleversement. On notera également que le gouvernement socialiste a mis en place entre 2012 et 2017 le mariage pour les couples homosexuels, dont toutes les enquêtes indiquent qu'il n'a guère les faveurs des croyants des différentes confessions, qu'ils soient catholiques ou musulmans. Cela n'a pas empêché les électeurs de confession musulmane de voter à plus de 90% pour les candidats de gauche et du centre en 2017, de même qu'en 2012 et qu'au cours des élections précédentes. L'interprétation évidente est que cette question du mariage homosexuel, pourtant importante, n'a finalement que peu de poids face à la menace existentielle que le FN et son idéologie nativiste représentent aux yeux de ses électeurs. Clivage religieux, clivage lié aux origines, le piège discriminatoire. Précisons enfin que les enquêtes post-électorales comprennent à partir de 2007 des questions portant sur les origines étrangères des personnes interrogées. Cela permet de distinguer les clivages électoraux liés aux identités religieuses de ceux liés aux trajectoires familiales et migratoires, qui correspondent en pratique à des réalités très différentes, mais qui ne peuvent être distinguées dans les enquêtes précédentes. Considérons par exemple les résultats obtenus lors de l'enquête menée en 2012. Les personnes interrogées devaient déclarer si elles avaient un ou plusieurs parents ou grands-parents étrangers ou d'origine étrangère. À cette question, 72% des personnes inscrites sur les listes électorales répondirent qu'elles n'avaient aucun grand-parent étranger et 28% répondirent qu'elles en avaient au moins un. Sur ces 28%, 19% déclarent une ascendance européenne, qui correspond pour près des deux tiers des cas à trois pays seulement, Espagne, Italie et Portugal, et 9% déclarent une ascendance extra-européenne. En pratique, il s'agit des pays du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, pour près de 65% des cas, et des pays d'Afrique subsaharienne pour environ 15% des cas, soit au total près de 80% des origines extra-européennes en provenance du continent africain. Si l'on examine maintenant la structure des votes, on constate que les électeurs ayant une origine étrangère européenne votent exactement de la même façon en moyenne que les électeurs sans origine étrangère, soit en l'occurrence 49% des voix en faveur du candidat socialiste lors du second tour de l'élection présidentielle de 2012, alors que les électeurs ayant une origine extra-européenne votent pour 77% d'entre eux pour ce même candidat. Voir graphique 14.18. On observe également que cet effet opère indépendamment de la religion, ce qui est d'autant plus important que le lien entre origine extra-européenne et identité religieuse est plus complexe que ce que l'on imagine parfois. Par exemple, parmi les personnes déclarant une origine maghrébine, moins de 60% se déclarent comme étant de confession musulmane. Plus précisément, parmi les enquêtés déclarant une origine étrangère en Afrique du Nord, 58% se déclarent comme musulmans, 6% comme juifs, 10% comme catholiques, 2% comme protestants ou d'une autre religion, et 24% sans religion. Parmi ceux rapportant une origine étrangère en Afrique subsaharienne, 40% se déclarent comme musulmans, 30% comme catholiques, 10% comme protestants ou d'une autre religion, et 20% sans religion. Cela permet de constater que les personnes ayant des origines en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne votent massivement pour les partis de gauche, y compris lorsqu'elles sont de confession chrétienne ou sans religion. On note toutefois que l'effet est d'autant plus fort que les différentes dimensions se combinent. Autrement dit, un électeur d'origine maghrébine sans religion vote beaucoup plus fortement pour les partis de gauche qu'un électeur sans origine étrangère ou avec une origine européenne, pour des caractéristiques socio-économiques équivalentes. Mais cette propension au vote à gauche est encore plus forte si l'électeur en question est également de confession musulmane. Cet effet cumulatif n'aurait rien d'évident sur la seule base des préférences politiques des électeurs concernés, par exemple sur le sujet des normes familiales et du mariage pour tous, et ne peut raisonnablement s'expliquer que par la perception parmi ces électeurs d'une hostilité particulière vis-à-vis de la religion musulmane de la part des partis de droite et particulièrement d'extrême droite. Or, indéniablement, il existe de nombreuses raisons justifiant ce type de perception. Les discours anti-musulmans ont joué un rôle important dans l'idéologie coloniale européenne, et particulièrement française, depuis le début du XIXe siècle. Plus généralement, il est important de rappeler les racines anciennes des idéologies nativistes actuelles. Dans l'entre-deux-guerres, la peur du grand remplacement était exprimée de façon très claire dans l'idéologie hitlérienne. Dès avant la Première Guerre mondiale, les idéologues du colonialisme, à l'image de Paul Leroy Beaulieu en France, avaient abondamment propagé l'idée que la prééminence historique de la race blanche et de la civilisation chrétienne exigeait le maintien d'un fort excédent démographique européen se déversant dans le reste du monde, faute de quoi c'est l'Europe qui risquerait à son tour de se retrouver envahie et abâtardie. L'extrême droite française, telle qu'elle s'est redéfinie depuis les années 1950-1980, s'est notamment développée autour du refus de la décolonisation. Elle compte parmi ses fondateurs de nombreuses personnes qui étaient des soutiens inconditionnels du maintien de la domination coloniale française en Algérie, à commencer par Jean-Marie Le Pen. Le FN a d'ailleurs enregistré depuis ses débuts des scores particulièrement élevés parmi les colons français rapatriés d'Algérie, notamment dans le sud de la France. L'hostilité aux musulmans, qui venaient d'obtenir l'indépendance algérienne en 1962 et de mettre un terme à près d'un siècle et demi de présence française, 1830-1962, était, pour des raisons évidentes, particulièrement vive au sein de ce groupe. Des travaux ont également montré que les personnes de confession musulmane font face actuellement à des discriminations particulières en France et en Europe, notamment sur le marché de l'emploi, ainsi d'ailleurs que sur celui du logement. De façon générale, il est bien établi que, pour un niveau de diplôme donné, les personnes issues de l'immigration maghrébine et africaine font face à des difficultés particulières d'accès à l'emploi, avec des taux de chômage plus élevés et des salaires plus bas. D'autres recherches récentes ont montré que la probabilité de décrocher un entretien d'embauche s'effondre dès lors que le prénom indiqué sur le curriculum vitae a une consonance musulmane, pour un même niveau de diplôme et d'expérience professionnelle, et également pour une même origine étrangère. L'effet est massif. Pour un même CV, moins de 5% des jeunes avec un prénom musulman obtiennent un entretien d'embauche, contre 20% pour les autres. La mention d'une participation aux scouts musulmans fait chuter les taux de réponse, alors qu'une expérience avec les scouts catholiques ou protestants les fait monter. Les non-juifs sont également discriminés, mais beaucoup moins massivement que les non-musulmans. L'étude repose sur plus de 6000 offres d'emploi représentatives des petites et moyennes entreprises. Pour vaincre ce type de préjugés, comparables à ceux dont sont victimes les femmes ou divers groupes sociaux dans d'autres pays, on peut penser a priori à différentes solutions, y compris des systèmes de quotas et de réservations, comme cela a pu se faire en Inde pour les catégories historiquement discriminées. L'expérience indienne montre cependant que de telles politiques courent le risque de figer les contours de certaines catégories si l'on ne parvient à prévoir dès l'origine les conditions de leur évolution. Dans le contexte français et européen, le risque que de telles politiques ne contribuent qu'à exacerber les tensions identitaires et l'hostilité anti-islam est réel. Il peut être plus adapté de sanctionner beaucoup plus sévèrement les comportements discriminatoires en fonction de la religion et des origines, et de se donner les moyens d'identifier ces cas au moyen de tests appropriés. En tout état de cause, on voit comment l'apprentissage de la diversité postcoloniale et le développement d'idéologies nativistes d'un nouveau type ont conduit à l'émergence de configurations et de conflits inégalitaires inconnus en Europe quelques décennies auparavant.